Tout de suite à 18h, c'est l'heure du journal avec vous Aurélie Kiefer, bonsoir.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Une amende de 3,7 milliards d'euros pour UBS. La banque suisse est condamnée pour démarchage bancaire illégal et blanchiment aggravé de fraude fiscale en France. Précision de Marie Viennot dans un instant. La commission des lois du Sénat lance une procédure pour faux témoignage à l'encontre d'Alexandre Benalla. Mais elle pointe aussi des dysfonctionnements majeurs au sommet de l'État. L'Élysée promet d'apporter des réponses factuelles et dénonce beaucoup de contre-vérités. Échec des négociations sur l'assurance chômage. Le patronat rejette le principe du bonus-malus pour limiter le recours au contrat précaire, dispositif réclamé par les syndicats. La droite européenne dans l'embarras après l'attaque de Viktor Orban contre Jean-Claude Juncker, pourtant membre de la même famille politique. Jusqu'à quand le PPE peut-il soutenir le parti du Premier ministre hongrois? Nous poserons la question à notre correspondante à Bruxelles, Angélique Boin. C'est la plus lourde peine jamais infligée par la justice française dans une affaire d'évasion fiscale. Le tribunal correctionnel de Paris condamne le géant bancaire suisse UBS à une amende de 3,7 milliards d'euros pour démarchage bancaire illégal et blanchiment aggravé de fraude fiscale. La première banque privée du monde doit aussi verser 800 millions d'euros de dommages et intérêts à l'État français qui était partie civile. Bonsoir Marie Viennot.
Bonsoir.
UBS va faire appel et conteste cette lourde condamnation.
Oui, les avocats d'UBS affirme que cette condamnation n'est étayée par aucune preuve concrète. Dans un communiqué publié cet après-midi, ils expliquent que la condamnation ne repose, je cite, que sur des allégations infondées tenues par d'anciens employés de la banque, qu'aucune preuve n'a été apportée qu'un client français avait été démarché par un chargé d'affaires UBS pour ouvrir un compte en Suisse et que, aucune infraction n'ayant été constatée en France, cette condamnation revient à appliquer le droit français en Suisse, ce qui poserait, dit UBS, un problème d'extraterritorialité du droit français. Selon la magistrate du tribunal correctionnel de Paris qui a prononcé la sentence, les délits de démarchage bancaire illégal et blanchiment aggravé de fraude fiscale d'UBS trouvent au contraire leur source dans une organisation structurée, systémique et ancienne qui a gravement nui aux intérêts de l'État français et causé des dommages exceptionnels. Cette organisation consistait, comme l'ont révélé les deux lanceurs d'alerte ex-salariés d'UBS, à contacter la riche clientèle française potentiellement intéressée par un compte caché en Suisse dans des parties de chasse, des réceptions ou des rencontres sportives. Alors l'amende de 3,7 milliards d'euros est effectivement la plus importante prononcée jusqu'à maintenant pour fraude fiscale et de loin puisque le record était détenu par une banque lettonne condamnée à 80 millions d'euros. UBS doit se mordre les doigts de ne pas avoir réussi à négocier avec le parquet financier car aux États-Unis la banque a fait ce choix et payé seulement 780 millions d'amende, je me dis seulement entre guillemets, et en France où cette possibilité de négocier pour éviter un procès a aussi été ouverte en 2016, sa concurrente HSBC qui était poursuivie pour exactement les mêmes délits n'a écopé elle que de 300 millions d'euros. UBS a bien sûr fait appel, l'histoire n'est donc pas terminée.
Marie Viennot, c'est un rapport particulièrement accablant. Après 6 mois de travaux, la commission des lois du Sénat a présenté son rapport d'enquête sur l'affaire Benalla. Elle demande des poursuites contre l'ancien proche d'Emmanuel Macron pour faux témoignages, mais elle pointe aussi des dysfonctionnements majeurs au plus haut niveau de l'État, Stéphane Robert.
Oui, pour ce qui concerne les mises en cause personnelles, il y a d'abord Alexandre Benalla, coupable de faux témoignages. Il a notamment affirmé qu'il ne connaissait pas l'homme d'affaires russe Iskander Mahmoudov, alors qu'il a signé un contrat pour assurer sa sécurité. Il convient donc, expliquent les sénateurs, de saisir la justice. Mais la commission d'enquête sénatoriale pointe également les déclarations contradictoires faites par des très proches du chef de l'État. Jean-Pierre Sueur est vice-président de cette commission.
À l'opposé des déclarations faites par M. Strada, par M. Lavergne et par M. Kohler, il est apparu que M. Alexandre Benalla avait exercé de fait une fonction tout à fait essentielle pour l'organisation et la gestion de la sécurité du président de la République, au risque d'en perturber le fonctionnement normal.
On parle là d'Alexis Keller, secrétaire général de l'Élysée, de Patrick Strada, directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, et de Lionel Lavergne, chef du groupement de gendarmerie chargé de sa protection. Leurs propos sont contradictoires, affirment les sénateurs, en ce sens qu'ils auraient cherché à masquer la véritable fonction d'Alexandre Benalla. La justice devra donc décider s'il y a lieu de les poursuivre ou non. Mais au-delà de ça, ce qui apparaît au grand jour, explique le président de cette commission, Philippe Bas, c'est un dysfonctionnement global des services de l'État depuis le 1er mai, date des événements place de la Contrescarpe à Paris jusqu'à la fin du mois de décembre 2018.
Sanctions insuffisantes au départ, justice tenue à l'écart, permis de port d'armes irrégulier, maintien en possession de M. Benalla d'un téléphone crypté, de passeports diplomatiques ou de services qui n'ont pas été récupérés, absence d'instruction donnée à la police de l'air et des frontières de ne pas permettre à M. Benalla de sortir au moyen de ses passeports diplomatiques ou de services. Cela fait tout de même beaucoup.
Enchaînement de dysfonctionnements, selon le sénateur Jean-Pierre Sueur, et de la responsabilité de tous les services qui entourent le président de la République.
Tout s'est mis à dysfonctionner. Depuis l'Élysée jusqu'au ministère de l'Intérieur, à la préfecture de police, au Quai d'Orsay et même dans les ambassades. Voyez-vous, comme si un seul être, par son autorité supposée, faisait que tout se mettait à dysfonctionner par cercles successifs.
Le résultat, selon cette commission sénatoriale, c'est qu'on a fragilisé pendant plusieurs mois les dispositifs de sécurité qui entourent le chef d'État de la 5e puissance mondiale. Pour y remédier, les sénateurs ont émis 13 propositions. Elles concernent notamment un renforcement des vérifications administratives lors du recrutement des collaborateurs à l'Élysée. Ils estiment également, à travers leurs travaux, avoir joué leur rôle de contre-pouvoir et avoir ainsi renforcé les institutions et la démocratie.
Stéphane Robert, le parquet de Paris indique qu'il a ouvert vendredi dernier une enquête préliminaire pour entrave à la manifestation de la vérité. Il veut déterminer s'il y a eu des dissimulations de preuves dans le cadre des différentes enquêtes visant Alexandre Benalla et son entourage. Après l'adoption du projet de réforme de la justice par le Parlement, le gouvernement va réformer par ordonnance le texte fondateur de la justice des mineurs, l'ordonnance du 2 février 1945. Mais la ministre Nicole Belloubet a promis que ce nouveau code de la justice pénale des mineurs n'entrerait en vigueur qu'après un débat parlementaire. Et l'ordonnance va se nourrir du travail de la mission d'information menée par les députés Jean Terlier, Les Républicains, et Cécile Untermaier, socialiste. Ils viennent de présenter leurs propositions à l'Assemblée, Fiona Mogadam.
Une réforme jugée nécessaire par ce groupe de travail parlementaire qui en 10 mois s'est entretenu avec une trentaine d'acteurs de la justice des mineurs, des juges, des avocats, des éducateurs. Tous font le même constat d'après Jean Terlier, rapporteur de cette mission d'information.
On a une ordonnance de 45 qui a été modifiée 39 fois, qui est pas du tout en adéquation avec les attentes des professionnels, qui est devenue illisible sur certains aspects, avec des procédures qui sont parfois très complexes sur qu'est-ce que c'est qu'une mesure éducative, une sanction éducative, une peine qui varie en fonction de l'âge du mineur. Je crois qu'il y a un souci de clarification qui va passer par cette codification de l'ordonnance de 1945.
Parmi les principales propositions, une procédure pour juger en deux temps le mineur, d'abord sur sa culpabilité, puis sur sa peine, et éviter ainsi détention provisoire et récidive, mettre l'action sur l'éducation jugée essentielle, par exemple quand un élève est exclu d'un établissement, et pour éviter tout risque de basculement dans la délinquance, développer des écoles relais, autre mesure que la députée PS Cécile Untermaier souhaiterait voir adoptée, fixer un âge de responsabilité pénale des mineurs à 13 ans.
Ça peut être une voie de clarification, de mise en cohérence avec les conventions que nous avons signées, de mise en cohérence avec les autres États de l'Union et une manière de privilégier finalement l'éducatif en deçà de 13 ans par rapport au répressif.
Une réforme qui ne se fera pas sans moyens, précise la députée qui demande au gouvernement d'augmenter le budget pour la justice des mineurs.
Emmanuel Macron participe ce soir au traditionnel dîner du CRIF. Le Conseil représentatif des institutions juives de France attend de lui des réponses concrètes à la recrudescence des actes antisémites. Alors que des manifestations contre l'antisémitisme ont rassemblé hier soir des dizaines de milliers de personnes dans de nombreuses villes de France, des croix gammées et des tags antisémites ont été découverts ce matin dans le cimetière de Champagne au Mont-d'Or, à l'ouest de Lyon. Le gouvernement va reprendre la main sur la réforme de l'assurance chômage. Les partenaires sociaux se sont réunis une dernière fois aujourd'hui, mais ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Les syndicats défendaient le principe du bonus-malus pour décourager le recours aux contrats précaires. Le patronat n'en voulait absolument pas. La réunion s'est donc conclue sur un constat d'échec, Catherine Pétillon.
Oui, et le sentiment que tout le monde est perdant, c'était en tout cas la tonalité cet après-midi au siège du MEDEF. Après à peine une petite heure, syndicats et patronats se sont quittés sans avoir même discuté. Michel Bogas, négociateur pour Force Ouvrière.
Quand vous avez la délégation patronale qui vous dit dès l'entrée de la négo qu'on va faire un constat d'échec, pourquoi voulez-vous qu'on aille examiner un texte qui ne fera jamais l'objet d'un accord? Pour trouver un accord, les partenaires doivent faire un pas l'un vers l'autre et non pas un pas de côté pour éviter la difficulté. Et c'est ce qu'a fait le patronat aujourd'hui.
car tous les syndicats réclamaient un bonus-malus, autrement dit d'agir sur le comportement des entreprises en matière de contrats courts, refus toujours catégorique du patronat, Hubert Mongon, négociateur pour le MEDEF.
Nous avons toujours pris acte d'une problématique avec dans l'idée de faire en sorte que l'on puisse avoir des propositions qui accompagnent des salariés qui sont en situation de fragilité. La dizaine de propositions que nous avons formulées n'a pas remporté l'adhésion des organisations syndicales, on peut évidemment le regretter. Nous allons demander à ce qu'une réunion se tienne en présence de la ministre du Travail, de façon à ce que l'on puisse partager l'ensemble des propositions qui ont été formulées, encore une fois, dans un contexte national tout à fait particulier.
Même attente côté syndical, car c'est désormais au gouvernement de définir les nouvelles règles de l'assurance chômage et les manières d'obtenir le milliard d'économies annuelles qu'il demande pendant 3 ans. Les syndicats vont tenter d'utiliser le contexte social pour éviter un durcissement des conditions d'indemnisation des chômeurs et le MEDEF, lui, d'échapper au bonus-malus promis par Emmanuel Macron. Mais en pratique, il sera dur pour tous de peser. Cet échec de la négociation met à mal la gestion de l'assurance chômage par les partenaires sociaux au profit de décisions plus politiques.
Catherine Pétillon en direct du siège du MEDEF avec Arthur Gerbeau à la technique. L'industrie du médicament propose un plan d'action pour lutter contre les pénuries de médicaments. Ce phénomène n'a cessé d'augmenter ces dernières années. En 2017, 538 signalements de rupture d'approvisionnement ou de tension ont été recensés contre 44 signalements 10 ans plus tôt. Cette inflation préoccupe beaucoup les fabricants eux-mêmes. Leur syndicat, le LEM, propose donc un ensemble de mesures au pouvoir public et aux autres acteurs de la chaîne du médicament pour sécuriser le plus possible l'accès aux thérapies indispensables, Tara Schlegel.
Actuellement, les laboratoires affirment qu'ils définissent eux-mêmes la liste des produits indispensables, les MITM, médicaments d'intérêt thérapeutique majeur. Or, la liste est trop large, elle couvre 40% de la pharmacopée. Il faudrait cibler les efforts, explique Thomas Borrell, directeur scientifique du LEM.
L'objectif, c'est de renforcer une action sur une liste de médicaments plus limitée, de façon à ce que l'action porte ses fruits. Si on prend les anticancéreux, si vous prenez 200 molécules d'anticancéreux aujourd'hui disponibles, on peut convenir qu'une trentaine ou une quarantaine de ces médicaments sont indispensables parce que leur absence, compte tenu de l'absence d'alternative, engagerait le pronostic vital des patients concernés.
Il faut donc créer une liste de médicaments d'intérêt sanitaire et stratégique, les MIS, comme les rebaptise déjà l'industrie. Elle s'engagerait alors à en constituer des stocks plus importants, jusqu'à 25% des besoins estimés de la population. Et puis pour ces produits, on reverrait aussi les plans de gestion de pénurie, obligatoires dans la loi, mais insuffisamment travaillés, reconnaît Philippe Lamoureux, directeur général du LEM.
Ils sont sans doute perfectibles, puisque l'Agence des médicaments s'est émue dans un certain nombre de circonstances d'une insuffisance de ces plans de gestion des pénuries. C'est un dispositif qui est récent, il date de à peine 2 ans, et donc il doit trouver sa place dans le dispositif de lutte contre les ruptures.
On pourrait par exemple mieux discuter en aval avec un concurrent susceptible de fournir le produit en cas de défaillance ou encore obliger les grossistes distributeurs à plus de transparence pour avoir une visibilité sur comment ils distribuent les stocks. Tout cela sous l'égide de l'Agence du médicament. Autre axe de travail des industriels. Conserver en Europe le peu d'usines qui fabriquent encore des principes actifs, cette matière première des médicaments. Car il faut savoir que 80% de ces principes actifs viennent désormais de Chine, d'Inde, des États-Unis. Pour le directeur général du LEM, défendre cette production n'est pas seulement du ressort des industriels.
Non, c'est totalement de la responsabilité de l'Europe pour une raison très simple, c'est qu'il va falloir lutter avec des armes compétitives vis-à-vis du sud-est asiatique, par exemple. Or, aujourd'hui, nous ne luttons pas armes égales et les solutions ne peuvent pas être françaises. Pour des raisons de droit de la concurrence, l'Europe n'accepterait pas une distorsion entre les différents États pour faire revenir cette production de principes actifs.
Mais vous voulez dire des subventions, par exemple ?
Que ce soit des mécanismes de subvention, que ce soit des mécanismes de crédit d'impôt, que ce soit des mécanismes de simplification et d'harmonisation des normes. Je pense que ça passe effectivement par une politique européenne plus construite.
L'industrie du médicament, qui brassait quand même un chiffre d'affaires, d'après le LEM, de 54 milliards d'euros en 2017, l'industrie attend donc des autorités publiques qu'elles fassent de ces ruptures de stock une priorité.
Tara Schlegel, notre spécialiste santé. Vous aussi, vous avez le droit de savoir ce que Bruxelles prépare. Les visages du financier George Soros et du président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker illustrent au-dessus de ce slogan la campagne lancée lundi par le gouvernement hongrois. Une campagne visant à montrer que la Commission veut forcer la Hongrie à accepter toujours plus de migrants. Bruxelles a répliqué et dénoncé de fausses informations, mais cette nouvelle initiative du dirigeant national conservateur Viktor Orban met le Parti populaire européen dans l'embarras. le PPE dont fait partie Jean-Claude Juncker, tout comme le Fidesz, le parti du Premier ministre hongrois, Angélique Boin.
Jean-Claude Juncker lui-même a été le premier à réagir. Il n'y a pas de ressemblance entre M. Orban et moi-même, a-t-il répliqué lors d'une réunion publique en Allemagne, ajoutant « Je pense par conséquent que sa place n'est pas dans le PPE ». Cela n'avait jamais été dit aussi clairement, même si les tensions entre les deux hommes ne sont pas nouvelles. Sur le ton de la boutade, en 2015, le président de la Commission européenne avait en effet accueilli à un sommet le dirigeant hongrois en le qualifiant de dictateur, rien de moins. Autre réaction, celle du président du parti, Joseph Daul, qui condamne fermement la campagne hongroise et qui rappelle à Viktor Orban que les décisions prises à Bruxelles, y compris en matière d'immigration, sont prises collectivement avec son pays. Au lieu de désigner l'Union comme un ennemi fantôme, la Hongrie devrait réaliser qu'elle en fait partie, écrit-il dans un tweet, ambiance. Aucune réaction en revanche à ce stade du côté du groupe parlementaire, interpellé pourtant par Jean-Claude Juncker. Ce dernier a appelé le chef de file de la droite européenne, l'allemand Manfred Weber, à se poser la question d'une exclusion. Mais exclure Orban revient à exclure le Fidesz, son parti, 11 eurodéputés, ce qui n'est pas rien, des élus qui ne posent pas de problème particulier dans le travail législatif, confient certains de leurs collègues et dont les votes comptent, bien évidemment, des députés hongrois qui seront peut-être aussi plus nombreux dans la prochaine mandature, dans un contexte de baisse annoncée du nombre de parlementaires dans les partis traditionnels. Les débats sur le sujet au sein du PPE promettent donc d'être vifs.
Jean-Claude Juncker reçoit Theresa May à Bruxelles pour une nouvelle discussion sur le Brexit alors qu'une recomposition politique se profile au Royaume-Uni. Trois députés opposés au Brexit ont quitté aujourd'hui le Parti conservateur pour rejoindre des élus travaillistes sécessionnistes. En Turquie, l'homme d'affaires Osman Kavala risque la prison à perpétuité. Figure majeure de la société civile, Osman Kavala est accusé avec 15 autres personnes de tentative de renversement du gouvernement. Il est mis en cause dans l'organisation et le financement des manifestations anti-gouvernementales du printemps 2013, le mouvement de Gezi. Correspondance à Istanbul, Dan Andlauer.
Près de 6 années ont passé depuis ce que les Turcs appellent tout simplement Gezi, du nom de ces manifestations autour d'un parc d'Istanbul qui s'était propagé à la Turquie entière pendant plusieurs semaines. Le président Recep Tayyip Erdogan, premier ministre à l'époque, n'a rien oublié et semble décidé à faire le procès de Gezi. Plusieurs enquêtes sont en cours. Celle à l'issue de laquelle un procureur vient de publier son acte d'accusation concerne 16 personnes soupçonnées d'avoir organisé ce mouvement de protestation. Ce sont toutes des figures de la société civile, activistes, membres d'ONG ou de chambres professionnelles, un journaliste et même un acteur et son épouse. Parmi ces personnalités figure surtout Osman Kavala, célèbre homme d'affaires et mécène emprisonné depuis 15 mois. Ses avocats savent enfin de quoi la justice l'accuse, en l'occurrence une dizaine de crimes, dont celui de tentative de renversement du gouvernement. Les accusés risquent une peine incompressible de prison à vie. Pas moins de 746 personnes se sont constituées partie civile, dont Recep Tayyip Erdogan. L'actuel président considère Gezi comme une tentative de coup d'État planifiée avec l'aide de forces étrangères. Une rhétorique qui convoque des ennemis de l'intérieur et des ennemis de l'extérieur, et que le chef de l'État utilise sans relâche en cette période de campagne pour les élections locales du 31 mars.
Aux États-Unis, la Chambre des représentants lance une enquête pour déterminer si la Maison-Blanche est en train de vendre ou a essayé de vendre la technologie nucléaire américaine à l'Arabie Saoudite. Riyad, qui veut sortir de sa dépendance au pétrole, a des projets de construction de centrales nucléaires. Et la Chambre des représentants s'interroge sur le risque d'une utilisation à des fins militaires de cette technologie. Elle s'inquiète aussi d'éventuels conflits d'intérêts au plus haut de l'administration américaine, Grégory Phillips.
Dans son rapport de 24 pages, la commission de la Chambre des représentants révèle que la Maison-Blanche s'active afin que les États-Unis puissent vendre une quarantaine de centrales nucléaires à l'Arabie Saoudite. Une réunion consacrée à ce projet a eu lieu le 12 février dernier dans le bureau ovale en présence de Donald Trump. En soi, ce n'est pas illégal, les États-Unis peuvent exporter leur technologie nucléaire, mais à condition d'avoir suffisamment de garanties sur un usage uniquement civil de cette énergie. Or, les représentants américains redoutent que Riyad ait pour projet d'utiliser cette technologie à des fins militaires. Le rapport pointe aussi de nombreux et potentiels conflits d'intérêts. Ce projet d'une quarantaine de centrales est mené par le groupe américain IP3 International, qui compte dans ses rangs l'ancien général Michael Flynn, qui fut l'éphémère conseiller à la sécurité nationale de Trump. D'autre part, le gendre du président, Jared Kushner, entretient, on sait, une relation privilégiée avec le prince héritier, Mohamed Ben Salman. Les deux hommes, Flynn et Kushner, auraient donc poussé pour que ce transfert de technologie puisse se faire. Le contrat définitif n'a pas encore été signé, mais ses forts intérêts commerciaux pourraient expliquer en partie le manque d'empressement de la Maison-Blanche à condamner le régime saoudien dans l'affaire du meurtre du journaliste dissident Jamal Khashoggi.
Grégory Phillips à Washington pour France Culture. Demain jeudi, la journée débutera souvent dans la grisaille au nord de la Seine. Le ciel pourrait rester gris entre le bassin parisien et le nord de la Lorraine. Ailleurs, l'après-midi sera ensoleillé et doux. Quelques gelées demain matin dans l'Est, entre 1 et 5 degrés sur le nord-ouest. En journée, les températures atteindront 12 à 17 degrés, jusqu'à 21 dans le sud de l'Aquitaine. Ce journal a été préparé avec Chloé Leblon.